Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous continuerons dans l'étude d'un psaume, le psaume 1. Brigitte va le lire et ensuite Étienne nous rejoindra sur le plateau pour nous aider à le comprendre.
Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
Merci Brigitte et bonjour Étienne. Merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver.
Aujourd'hui, nous revenons sur ce psaume 1 que nous avons commencé à étudier la dernière fois. Rappelez-nous brièvement ce que nous avons déjà appris.
De façon poétique, ce psaume nous appelle à renoncer à la folie et à rechercher plutôt la sagesse. Selon ce psaume, la folie consiste à écouter et à suivre les gens méchants qui veulent nous inclure dans leurs mauvais projets et qui finissent par nous égarer sur les sentiers du mal. La folie consiste à écouter ceux qui se moquent de Dieu, à suivre ceux qui sèment le doute et essayent de nous persuader qu'il ne faut pas mener une vie de foi, une vie droite et intègre. Les agissements des méchants et des moqueurs tiennent de la folie, car, selon ce psaume, ces personnes sont destinées à la ruine éternelle.
Merci. La folie consiste à suivre les méchants et les moqueurs, mais en quoi consiste la sagesse ?
Nous trouvons la réponse à cette question dans le deuxième verset du psaume. Je le relis. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. En bref, la voie de la sagesse consiste à se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Elle consiste à laisser cette parole façonner notre vie et à orienter tous nos choix et toutes nos décisions.
Le psaume parle de la loi de l'Éternel.
Oui. Et il faut préciser que ce terme, la loi de l'Éternel, a un sens plus large que la liste des commandements. Rappelons-le au moment où l'auteur a rédigé ce psaume. La Bible n'existait pas telle que nous l'avons aujourd'hui. De ce fait, les mots « la loi de l'Éternel » désignaient tout écrit à la disposition du peuple que l'on considérait d'inspiration divine. Nous ne savons pas exactement quels étaient ces écrits. Mais l'auteur du psaume évoque probablement surtout les écrits de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse et l'Exode, le Lévitique, les livres des Nombres et le Deutéronome. Il est probable que d'autres écrits existaient déjà, comme les livres de Josué et les Juges, le livre de Ruth et le livre de Job. Il est vrai que ces écrits contiennent un bon nombre de commandements, de lois et de règlements. Surtout contenus dans les livres de Moïse, comme dans l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome. Cependant, ces livres racontent aussi l'histoire du peuple de Dieu, depuis la création du monde jusqu'à l'établissement de la royauté dans le peuple d'Israël. Et à travers cette histoire, Dieu se révèle, il se dévoile, il agit et il intervient. En résumé, par le biais de ses écrits et de la loi, aussi bien que de l'histoire du peuple d'Israël, il est possible de connaître Dieu. Il est possible de recevoir ces instructions qui nous apprennent à mener une vie de foi basée sur sa sagesse.
Et aujourd'hui, nous avons le privilège de posséder la Bible entière.
C'est vrai, Yann. Il s'agit là d'un privilège énorme. Et pour le chrétien, il est tout à fait naturel de parler, de méditer la Bible ou la parole de Dieu, plutôt que d'utiliser le terme de la loi de l'Éternel. L'auteur du psaume avait peu d'écrits d'inspiration divine à sa disposition. Nous en possédons beaucoup plus. Au livre de Moïse, il faut ajouter tous les livres narrant l'histoire du peuple de Dieu, puis les livres des prophètes, ainsi que les livres invitant à la sagesse, tels que les Proverbes. Nous disposons aussi du Nouveau Testament, avec les quatre évangiles qui relatent la vie, la mort et la résurrection de Jésus, auxquels il faut ajouter toutes les lettres écrites par les apôtres. Vraiment, la Bible est comme un coffre à trésors, une source riche d'enseignements à méditer, un puits intarissable de sa sagesse divine. Yann, si vous saviez qu'un coffret rempli de trésors est enterré dans votre terrain, que feriez-vous ?
Eh bien, je ferais tout pour le trouver, le déterrer, pour jouir de son contenu.
Et c'est tout à fait normal. Ce psaume nous met en garde contre les soi-disant trésors du monde, car trop souvent, ils nous déçoivent. Les propositions alléchantes ou séductrices des méchants sont illusoires. Oh, elles peuvent procurer un certain plaisir pendant un certain temps, mais en vérité, elles nous conduisent à la ruine. Par contre, nous avons à notre disposition un tout autre trésor. La Bible et sa richesse consistent à nous apporter une véritable connaissance de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui bénit.
Merci Étienne. L'auteur du psaume nous encourage à méditer la Bible jour et nuit. Qu'est-ce que la méditation? Comment faire?
D'abord, il est essentiel que la Bible soit au cœur de la vie de l'Église et du chrétien. Si nous la négligeons, nous courons un grand danger. Alors considérons ce qu'est la méditation. Je voudrais d'abord vous mettre en garde contre certaines idées à propos de la méditation qui trouvent leurs origines dans les religions ou spiritualités de l'Orient. Selon ces idées, la méditation consiste à vider son esprit de toute pensée, de tout raisonnement, de toute réflexion et de toutes émotions pour apaiser toute agitation et atteindre un état de tranquillité. Il faut le préciser, la définition biblique de la méditation est fort différente. La méditation, selon la Bible, consiste à remplir son esprit et ses pensées avec des vérités bibliques et divines. Elle ne consiste donc pas à vider son esprit. L'auteur du psaume nous invite à méditer la loi de l'Éternel. Autrement dit, il nous encourage à écouter ou à lire la Bible pour ensuite réfléchir mûrement au sens de ce que nous avons appris. Il ne suffit pas de simplement et rapidement lire un passage biblique. Non, pour vraiment profiter de la parole de Dieu, il faut la méditer, c'est-à-dire passer du temps dans la réflexion, afin de comprendre sa signification et chercher la manière de mener notre vie à la lumière de ce que nous apprenons. C'est par la méditation de la Bible que l'Esprit de Dieu parle à notre cœur. C'est par la méditation de la Bible que Dieu sème sa parole dans notre cœur et que cette parole prend racine et contribue à notre croissance spirituelle. D'ailleurs, ce psaume 1 évoque l'image d'un arbre planté auprès d'un cours d'eau et nous abordons cette image plus en détail lors de notre prochaine émission. C'est par la méditation de la Bible que l'Esprit de Dieu nous transforme, tout comme un potier façonne un beau vase à partir d'un morceau d'argile.
Merci Étienne. Nous commençons à comprendre toute l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Nous comprenons que la Bible doit être au cœur de notre vie spirituelle. Cependant, je voudrais soulever un problème auquel nombre de nos amis auditeurs se trouvent confrontés.
Je vous en prie, de quoi s'agit-il?
D'abord, beaucoup de nos amis ne possèdent pas de Bible, n'ayant pas les moyens de s'en procurer une. Ensuite, d'autres n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école et n'ont jamais appris à lire. Comment dans ces cas-là peut-on méditer la parole de Dieu? Comment dans de telles circonstances mettre la Bible au cœur de notre vie spirituelle?
Oui, je comprends toutes les difficultés auxquelles sont confrontées de telles personnes et en fait, des circonstances similaires existaient à l'époque où l'auteur du psaume a écrit les paroles que nous étudions aujourd'hui. En effet, en Israël, il y a 2 ou 3 000 ans, on trouvait très peu de copies des Écritures, car il n'existait pas d'imprimerie. Il fallait recopier chaque livre à la main. De plus, très peu de personnes apprenaient à lire et à écrire.
Alors, dans de tels contextes, comment peut-on méditer les Écritures?
D'abord, il est important que la Bible soit lue pendant les cultes et les autres réunions d'église. Il ne faut pas négliger ou empêcher la lecture de la Bible, surtout là où de nombreuses personnes n'ont pas la possibilité de la lire personnellement chez elles. Ensuite, nous encourageons toute personne qui a l'occasion d'écouter des lectures de la Bible à mémoriser, autant que cela lui est possible, des versets. Puis, au cours de la semaine, on peut se souvenir de ces passages mémorisés et l'on peut les méditer à profit. La mémorisation de récits et de contes est chose courante dans les cultures orales et donc, dans le contexte de l'Église, il peut être relativement facile pour les croyants de mémoriser des récits bibliques pour ensuite les méditer. Et d'autres possibilités existent. Les personnes lettrées qui disposent d'une Bible chez elles peuvent la lire à haute voix à d'autres membres de leur famille, ou bien elles peuvent rendre visite à des amis ou des voisins, justement pour lire et méditer la Bible avec eux. Enfin, la technologie moderne offre aussi quelques solutions. Par exemple, celles et ceux qui ont un téléphone assez performant peuvent installer une application donnant accès à des versions audio de la Bible. Ainsi, ils peuvent écouter la lecture de la Bible à tout moment pour la méditer ensuite.
Merci. Donc, certaines difficultés ne sont pas insurmontables. Ceux qui ont soif de méditer la Bible et d'avancer dans leur marche chrétienne peuvent trouver des solutions.
Oui, mais je voudrais vraiment insister sur l'importance de la méditation biblique, car je crains que, pour beaucoup, elle tient une petite place dans leur vie. Si nous négligeons la Bible, nous en serons les grands perdants et nous nous mettrons en grand danger. Si nous oublions de sonder les Écritures et de méditer la Bible, nous nous privons des richesses spirituelles qui sont comme des trésors à la valeur inestimable.
Merci. Pour conclure notre discussion, pouvez-vous commenter ce que l'auteur du psaume déclare en nous encourageant à méditer la Bible jour et nuit ? Cela peut paraître beaucoup.
Oui, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un commandement à méditer la Bible littéralement sans jamais s'arrêter. Cela révèle de l'impossible. Il s'agit plutôt d'une manière poétique de souligner l'importance vitale de la méditation de la Bible. Tout comme il est essentiel de manger au moins un ou deux bons repas par jour, il est aussi essentiel sur le plan spirituel de méditer la Bible. Oui, tous les jours si possible et aussi régulièrement que l'on peut. Il faut établir de bonnes habitudes et délibérément mettre de côté du temps pour approfondir la Bible. Il faut intentionnellement arrêter ses activités pour la méditer, tout comme l'on s'arrête pour manger un repas.
Merci Étienne. Nous devons nous arrêter là, mais la prochaine fois, vous serez de retour et nous discuterons ensemble sur quelques bienfaits des méditations bibliques à partir du verset qui suit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Oui, c'est bien cela. En attendant de vous retrouver tous, je vous dis au revoir.
Oui, au revoir à tous, et que Dieu vous bénisse.